Bonjour à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer, tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Hier, je vous ai parlé des drôles de monstres qui habitent l'univers des contes, et aujourd'hui, je voudrais vous parler des drôles de femmes qui habitent l'univers des conteurs et des conteuses. Quand je dis drôles, c'est pas tant qu'elles font rire, mais c'est plus qu'elles sont étranges. Et j'aimerais bien commencer avec l'histoire de la femme dorade. Je vais vous raconter l'histoire d'un pêcheur, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur. Tout avait bien marché pour lui, mais quand l'histoire a commencé, il n'avait pas pêché un seul poisson depuis 6 mois. Il n'avait pas pris un seul coquillage. Non, pas une seule méduse. Depuis 6 mois, dans ses filets, il ne trouvait que des algues ou des morceaux de papier, de carton, des emballages. Tous les soirs, avant de rentrer, il triait le contenu de son filet et prenait les algues afin de préparer son souper. Le menu était le même tous les soirs, une soupe avec un peu d'algues et des herbes qui flottaient pour un bouillon salé. Les jours de fête, il empruntait une poignée de riz à ses voisins. Un soir, le pêcheur est fasciné par la couleur pourpre du soleil couchant. Il rentre chez lui en longeant la mer pour regarder le jour baisser. Arrivé au bout de la plage, il voit un attroupement d'enfants de tous les âges qui hurlent de rire. Ils crient, se bousculent, se jettent les uns contre les autres. Intrigué par leur manège, le pêcheur s'approche et voit ce qu'il aimait dans cet état. Les enfants ont pêché un beau poisson. Une dorade rose, précisément. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire qu'une partie de foot où le poisson sert de ballon. L'homme trouve ça insupportable. Il disperse les enfants à coups de pied, les bouscule et les renvoie chez eux. Et quand le silence est revenu, ému, il saisit tout doucement le poisson dans ses deux mains et il n'a plus qu'une seule idée. Ouais, il dirige ses pas vers la mer. Et quand l'eau lui arrive à mi-mollet, il se baisse et plonge la dorade dans les vagues. Son cœur bat à se rompre. Le poisson est inerte. Il le croit mort, mais il attend patiemment. Et petit à petit, la dorade reprend vie. Sa queue remue légèrement, puis ses nageoires frémissent, et soudain elle frétille, et d'un coup elle gagne le large. Le pêcheur est content, comme nous pouvons l'être, quand nous pensons avoir bien fait. Il rentre lentement chez lui et prépare son dîner. Au moment où il porte le bol de soupe à sa bouche, un orage terrible éclate. Les éclairs fendent le ciel et une pluie torrentielle se met à tomber. C'est un déluge, la terre est complètement inondée. Je n'ai peut-être pas de chance à la pêche, mais j'ai une chance extraordinaire d'être à l'abri un soir comme celui-ci, songe notre homme. Il porte à nouveau le bol à sa bouche quand il entend frapper à sa porte. C'est un grand événement pour lui. Quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Il pose le bol sur le bord de la table et se précipite pour ouvrir. Dans l'encadrement de la porte, il voit une jeune fille belle comme un sourire. Elle a la peau rosée, les cheveux très longs, mais elle est trempée, ruisselante, dégoulinante. Elle demande un abri pour la nuit. Le pêcheur l'invite à entrer. Il lui donne des habits secs et la moitié de son repas. Cette nuit-là, elle dort dans son lit à lui, et lui, dans la pièce d'à côté. Le lendemain, quand l'homme quitte sa maison en première lueur de l'aube pour se rendre à sa barque, il a un pincement au cœur à l'idée de ne plus la revoir. Mais elle semble si fatiguée qu'il n'a pas envie de la réveiller. Ce jour-là, ses filets sont aussi légers que d'habitude. Le soir, il rentre chez lui et vous me croirez si vous voulez, mais elle est là. Encore plus belle, rayonnante. Elle semble l'attendre et femme parfaite, si il en est, le dîner est prêt. Un bol de soupe fumante avec des algues et des herbes aromatiques. Il a très faim, mais il est aussi très heureux de la retrouver. Il hésite puis finit par aller d'abord vers elle. Il la salue puis Puis il se précipite vers le bol. Il le prend à deux mains et le porte à ses lèvres. Dès que le bouillon effleure ses papilles, il ressent un plaisir sans limite envahir son corps. La saveur du bouillon est délicieuse. Il repose le bol et la regarde. « Qu'as-tu mis dans le bouillon? Il n'y a rien dans ma maison. Je n'ai pas eu cette saveur dans la bouche depuis des années. Tu y as mis quoi ?»« C'est mon secret de fabrication, » répond-elle. « Si c'est bon, contente-toi de boire et ne pose pas de questions. » Le lendemain matin, le pêcheur va travailler de bonne heure. Il la laisse endormie. Le soir, il rentre et elle est là, toujours aussi rayonnante. Le bol de soupe fumante est aussi là qu'il attend. Cette fois, il se précipite sur le bol avant de la saluer, tellement le souvenir de la saveur de la veille le rend fou de bonheur. Quand le bouillon se répand sur son palais, il se sent rajeunir de 10 ans. Il repose le bol et la regarde. « Qu'y as-tu mis ? Je n'ai pas eu une saveur aussi délicieuse dans la bouche depuis l'enfance. Mais comment fais-tu ? C'est un secret de famille. » Si c'est bon, contente-toi de boire et ne pose pas de questions. Le lendemain et les jours suivants, quand il rentrait, elle était là, qu'il attendait, et le bol de soupe aussi. Et tous les soirs, il posait la même question, et tous les soirs, elle répondait « Si c'est bon, contente-toi de boire et ne pose pas de questions. » Au bout de 4 ou 6 semaines, il s'était habitué à sa présence, à son sourire, à sa voix si douce et ne le répétait pas, mais il s'était habitué à la paix qu'il ressentait quand il la regardait dormir la nuit. Et puis, il faut le reconnaître aussi, il s'était habitué à son bouillon. Alors un jour, il lui a demandé de rester. « J'ai déjà commencé depuis longtemps. Tu ne t'en es pas aperçu ?» Cette nuit-là, il dormait dans le même lit. Et pour lui, c'est la nuit la plus courte de sa vie. Et à l'aube, quand il part, il se dit que, tout compte fait, il est l'homme le plus chanceux de la Terre. Ils reprennent leurs vieilles habitudes. Tous les soirs, quand il rentre, elle l'attend, le bol de soupe aussi. Tous les soirs, il pose la même question. « Qu'as-tu mis dans le bouillon ?» Et tous les soirs, il entend la même réponse. « Dans la vie, c'est l'amour ou les questions. Si c'est bon, alors bois et tais-toi. » Eh oui, le quotidien, comme on dit. Mais dans la vie, c'est l'amour ou les questions. Au début, l'amour a pris le dessus et petit à petit, les questions se sont imposées. Un matin, le pêcheur s'en va. Mais au lieu de se diriger vers sa barque, il fait quelques pas et revient sur la pointe des pieds. Il colle l'œil sur une faille dans le mur et observe sa femme. Il la voit se réveiller, nettoyer la maison et préparer le repas. Elle met une marmite d'eau sur le feu. Elle y ajoute une pincée de sel, une poignée d'algues et des herbes aromatiques. Enfin, jusque-là, rien de bien original. Quand l'eau commence à bouillir à gros bouillons, il la voit de ses yeux. Elle dégrafe sa robe de haut en bas. Il voit se dénuder ses épaules rondes et lisses, puis son dos, puis la courbe de ses reins, ses jambes et... Elle est toute nue. Des écailles roses et brillantes recouvrent toute sa peau et, à la place de ses pieds, une queue de poisson. Une queue de dorade rose. La jeune femme plonge dans la marmite et fait quelques allers et retours en brasse et en dos crôlé. Au bout de 10 minutes, elle en sort resplendissante de vie et de santé. Elle se sèche avec une grande serviette blanche, se passe une lotion hydratante sur la peau, se coiffe, se parfume et se rhabille. Elle agrafe sa robe de bas en haut. Le soir, le pêcheur rentre à la même heure que d'habitude. Elle l'attend, le bol aussi. Quand elle lui présente la soupe, il ne peut pas supporter l'idée d'y toucher. C'est bien la première fois qu'il ne fait pas honneur au repas. Pensant qu'il a de gros soucis, elle tente de lui adoucir la vie par une tendresse, mais il ne supporte pas le contact de ses mains. Elle s'éloigne et sourit. « Toi, tu connais la recette du bouillon. Je t'avais prévenu. Dans la vie, c'est l'amour ou les questions. » Elle se dirige vers l'évier et s'arrête. Elle dégrafe sa robe de haut en bas. Il voit se dénuder ses épaules rondes et lisses, puis son dos, puis la courbe de ses reins, ses jambes. Elle est toute nue. Des écailles roses et brillantes recouvrent toute sa peau et à la place de ses pieds une queue de poisson, une queue de dorade rose. Elle fait un signe de la main et plonge dans le trou de l'évier. Les canalisations étaient si bien conçues en ce temps-là qu'elle a regagné le large en moins de temps qu'il n'en faut pour terminer cette histoire.
You are my sweetest downfall. I loved you first. I loved you first. Beneath the sheets of paper lies my truth. I have to go. I have to go. Your hair was long when we first met. Samson went back to bed, not much hair left on his head. He ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. And history books forgot about us, and a Bible didn't mention us, and a Bible didn't mention us, not even once. Myself one night, a pair of dull scissors in the yellow light, and he told me that I'd done all right, and kissed me till the morning light, and he kissed me till the morning light.
Samson went back to bed, not much hair left on his head. He ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. Oh, we couldn't bring the columns down, we couldn't destroy a single one. And history books forgot about us, and a Bible didn't mention us, not even one.
Continuer sur le thème des femmes étranges, voici un conte intitulé « La fille de l'hiver ». Ils habitaient une maison à l'écart, au bout d'un chemin. Une toute petite maison avec une cour devant. Il y avait un barrio, c'est une petite barrière, pour fermer la cour. Un banc, sous la fenêtre. Ils étaient très vieux. Ils ne voyaient jamais personne. Ils n'avaient pas de voisins, pas d'amis, pas de petits-enfants, même pas d'enfants. L'été, les deux vieux s'occupaient du jardin. Ils allaient se promener à l'ombre des noisetiers. Ils ne rencontraient jamais personne dans le chemin. Sans doute il y avait des maisons après le bout du chemin, des maisons avec des gens dedans. Mais les deux vieux n'avaient pas envie d'aller jusque-là. Ils avaient perdu l'habitude de voir des gens. Le soir, ils s'asseyaient sur le banc et ils attendaient la nuit. Non, l'été, ils ne s'ennuyaient pas trop. Mais l'hiver... Ah, l'hiver, ils auraient bien aimé avoir quelqu'un avec eux. Le temps leur paraissait si long. Un enfant. Ils auraient voulu un enfant. Un petit, un grand, une fille, un garçon. Un enfant pour leur tenir compagnie. Un soir, à la fin de décembre, la neige se met à tomber. Le lendemain matin, elle tombe toujours. Le vieux dit « Si elle continue comme ça, elle ne va pas tarder à monter jusqu'à la fenêtre. » Mais à midi, il n'y a plus que quelques tout petits flocons qui filochent dans l'air. Le soleil sort, le ciel était tout gris, il devient bleu. C'est beau, la neige, sous le soleil. Ça fait mal aux yeux, mais c'est beau. Le vieux dit « J'ai une idée, On va aller faire un bonhomme de neige tous les deux. Un bonhomme de neige à notre âge, t'es pas un peu fou? Mais non, il est pas fou le vieux. C'est ce soleil-là qui lui donne envie de sortir. Et ce ciel bleu comme en été. Le vieux, il veut tellement le faire, son bonhomme de neige, que tout d'un coup, la vieille, eh ben, elle en a envie elle aussi. Elle prend son manteau et son fichu et ses sabots. Le vieux, il a tout le temps son paletot sur le dos et son béret, même au coin du feu, et ses sabots aux pieds. Il ne lui reste plus qu'à mettre son cache-nez, à boutonner son paletot, à prendre sa canne. La vieille est déjà prête. Ils sortent en se tenant par le bras et, à tout petit pas, ils vont jusqu'au milieu de la cour, là où le soleil est le plus chaud. Ils font un joli bonhomme de neige. Pas un bonhomme de neige comme en font les enfants. Les bonhommes de neige des enfants ressemblent à des bonhommes de neige. Mais celui-là, ce serait plutôt... Ouais, plutôt une bonne femme de neige. Une bonne femme qui ressemble à quelqu'un. Les deux vieux sont fiers de leur travail. Ils l'admirent. Tout d'un coup, la vieille enlève son fichu. Elle s'approche de la bonne femme. Elle lui passe le fichu autour de la tête. Elle le noue sous le menton, puis elle se recule près du vieux et elle dit « Tu vois, c'est notre fille. C'est notre grande fille de neige. » Et le vieux dit « Ouais, tu as raison. Regarde, elle nous sourit. » Mais la vieille a repris le vieux par le bras. Faut pas dire des choses pareilles. Elle est bien jolie, c'est vrai, mais ce n'est qu'une fille de neige. Elle ne peut pas nous sourire. Allez, viens. Le soleil commence déjà à se cacher. Viens, on va rentrer, sinon on va prendre froid. » À tout petit pas, appuyés l'un sur l'autre, ils retournent vers la maison. Ils rentrent chez eux, et la fille de neige reste là, au milieu de la cour. Un bonhomme de neige, même si c'est une fille, ça reste dehors, ça ne rentre pas dans une maison, et ça ne sourit pas non plus. Pourtant, tant qu'il y a un peu de jour dans la cour, le vieux regarde par la fenêtre. Il a bien cru voir un sourire sur le visage de cette fille. Si seulement elle pouvait sourire une autre fois, ça voudrait dire qu'il ne s'est pas trompé tout à l'heure. Mais la nuit commence à tomber. Le vieux ouvre la fenêtre, il tire les contrevents, les accote, il referme la fenêtre. Il est un peu déçu, le vieux. Plus tard, les deux vieux sont en train de manger la soupe. Tout d'un coup, ils entendent « toc, 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 toc ». Des fois, l'hiver, le vent secoue la porte. Ça fait sursauter les deux vieux. Mais là, on dirait que c'est quelqu'un qui frappe. Mais ce soir, le temps est calme, il n'y a pas de vent. C'est bien quelqu'un qui frappe à la porte. Toc, 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 toc. Les deux vieux ont relevé la tête. Ils se regardent. Qui est-ce qui peut bien leur rendre visite par ce soir d'hiver? Depuis si longtemps que plus personne ne vient les voir. Le vieux a bien une idée, mais il ne dit rien. C'est la vieille qui va ouvrir. Le vieux reste debout, près de sa chaise. La vieille lui crie « Viens voir! Viens voir qui est là !» Mais le vieux, il n'a pas besoin d'aller voir. Il sait qui est là. Il entend la vieille qui dit « Entre! Entre, ma petite !» C'est une fille qui rentre dans la maison. Une fille de neige qui ressemble à une vraie fille. Une jolie fille, toute souriante. « Alors ?» dit le vieux. Tu en avais marre d'être toute seule au beau milieu de la cour? Mais bon sang, tu aurais bien pu venir à la maison en même temps que nous. J'aurais bien voulu, dit la fille. Aussitôt que j'ai eu le foulard sur la tête, je me suis sentie vivante. Mais je n'osais pas vous le montrer, je craignais de vous effrayer. Et puis, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait. C'est pas très facile, vous savez, de se dire qu'on a été faite avec de la neige et qu'en même temps on est comme une vraie personne. Laisse-la donc un peu tranquille, dit la vieille. Elle doit avoir faim, cette petite. Et puis sans doute qu'elle a froid aussi. Viens, ma petite, viens t'asseoir auprès du feu, là. T'es toute gelée. La vieille s'arrête de parler. Elle vient de se rendre compte qu'elle est en train de dire des bêtises. Voyons, cette fille ne peut pas avoir froid. La vieille apporte une chaise près de la porte, le plus loin possible du feu. Et ils restent là longtemps, à causer, tous les trois. Les deux vieux, près de la cheminée, et la fille, à l'autre bout de la maison. Avec ses deux petits pieds nus dans le courant d'air qui passe sous la porte. Ils en ont des choses à se raconter, comme si la fille était partie depuis des années et qu'elle était revenue chez ses parents ce soir. Les jours suivants, il faut qu'ils s'habituent à vivre ensemble. Cette fille est tellement différente des deux vieux. Eux, il leur faut de la chaleur. On dirait qu'ils passent tout leur temps à courir après la chaleur. Il leur faut la chaleur du feu, la chaleur de la soupe brûlante, la chaleur du lit sous l'édredon. Elle, au contraire, elle déteste la chaleur. Jamais elle ne s'approche du feu. Elle mange froid, elle boit froid. En plein hiver, elle n'a qu'une petite robe d'été sur elle. Pour dormir, elle se couvre avec un drap. C'est tout. Des fois, elle leur donne froid à ces deux vieux. Elle est si différente d'eux. Pourtant, les deux vieux, ils l'aiment. Et elle les aime aussi. Souvent, elle leur dit « Il ne faut pas trop vous attacher à moi. Je suis votre fille, mais je suis aussi la fille de l'hiver. Je suis venue vous tenir compagnie pendant quelques mois, mais au printemps, je vais m'en aller. » Elle leur fait de la peine en disant cela. Elle voit les larmes qui coulent sur les joues de la vieille et le vieux qui détourne la tête. Quand le printemps arrive, la fille n'a plus envie de quitter ses parents. Ils sont si bien ensemble, tous les trois. Et puis aussi, depuis quelque temps, elle a des amis. Des jeunes filles qui poussent le barrio de la cour et viennent frapper à la porte de la petite maison. Ce sont les filles qui habitent là-bas, plus loin que le bout du chemin. Souvent, ses amis veulent l'amener promener et la vieille dit « Tu peux bien y aller, ça te sortira un peu. » Mais elle refuse tout le temps. Depuis le début du printemps, elle a peur. L'hiver, on sait d'où vient la chaleur. Il suffit de faire attention de ne pas s'approcher du feu. Mais au printemps, le soleil apporte la chaleur partout, sans prévenir. Dans la cour, dans le chemin, dans les champs et dans les bois, le soleil lui fait peur. C'est encore à la maison, bien à l'ombre, qu'elle se sent le plus en sécurité. Elle aimerait bien aller dehors, mais la nuit seulement, quand il fait frais. Et comment faire comprendre cela à ses amis? Peut-être qu'elles ont compris, ses amis. Elles viennent la chercher un soir, un peu après le coucher du soleil. Elles sont toutes agitées. Elles parlent de l'amener à une fête. C'est le dernier soir du printemps. Partout cette nuit, on va fêter la venue de l'été. Les filles disent que là-haut, dans le village, les gens ont allumé un grand feu, que tout le monde va danser autour, que les garçons vont sauter par-dessus le brasier quand le feu commencera à s'éteindre. Un feu ? Les deux vieux sont inquiets. Un feu ? Mais un feu, c'est dangereux ! Mais leur fille promet de ne pas s'en approcher. Les deux vieux ont confiance en elle et ils la laissent partir. Au village, les filles retrouvent les garçons. Bien sûr, la jeune fille est contente, elle aussi, de retrouver des garçons. Il y en a même un qui lui plaît bien. Ce garçon n'arrête pas de la regarder. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est pâle, très pâle. Ses mains et ses joues sont presque transparentes. C'est le printemps qui la rend si pâle, mais ça lui va tellement bien. Les flammes sont un peu moins hautes. Les filles et les garçons décident d'aller faire une ronde autour du feu. Elle reste seule, à l'écart. Elle entend ses amis qui rient et qui chantent. Ça lui suffit, elle est heureuse. Mais pourquoi est-ce que ce garçon revient vers elle? Pourquoi est-ce qu'il la prend par la main pour l'entraîner dans la ronde? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas la force de lui résister? Elle sent la chaleur qui rentre en elle et elle dit « Je vais m'en aller. » Lui ne comprend pas, il dit « Déjà? Mais la fête vient tout juste de commencer. » Tout d'un coup, plus rien ne lui résiste. Il ne sent plus de main dans sa main, juste un peu de moiteur. Il regarde autour de lui, il ne voit personne. Il est seul, loin du feu. Il cherche, il appelle, il s'en va tout seul. Il descend jusqu'à la petite maison, il frappe à la porte, une voix lui dit d'entrer. Il n'y a que les deux vieux. Il ne lui pose pas de questions. Les larmes se mettent à rouler sur leurs joues ridées. La vieille dit « Elle est partie, n'est-ce pas ? Tu sais, mon petit, elle était notre fille, mais elle était surtout la fille de l'hiver. Il ne faut pas être triste. L'été nous l'a emmenée, peut-être qu'un soir de neige. L'hiver nous la ramènera. » Les deux vieux n'habitent plus dans leur petite maison depuis longtemps. Un jour, ils sont partis dans une maison de retraite. Il paraît qu'au moment de s'en aller, la vieille n'a pas voulu fermer sa porte à clé. Elle a raison, la vieille. Sans doute, un soir de neige, elle reviendra, la fille de l'hiver. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.